Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Sur Wikipédia, on peut lire ceci à propos du point d'interrogation. Il s'agit d'un signe de ponctuation qui se met à la fin d'une phrase interrogative à la place du point. Eh bien, on serait tenté aujourd'hui de compléter cette définition en y ajoutant ceci. Le point d'interrogation est très utilisé depuis quelques temps pour tout ce qui touche à Donald Trump. À quoi va ressembler sa présidence? Mettra-t-il ses outrances à exécution? Va-t-il rentrer dans le rang? Trump ira-t-il seulement au bout de son mandat? On pourrait tenir toute une émission rien qu'en recensant les questions qui lui sont consacrées. Les réponses, elles, se font attendre. Dans 24 heures, Donald Trump deviendra le 45e président des États-Unis, sans que la période de transition entre son élection et son investiture ait permis de lever les nombreuses incertitudes sur la réalité de ses intentions. Rarement une passation de pouvoir s'était déroulée dans un tel brouillard. C'est notamment le cas en matière de politique étrangère. La première puissance mondiale dépend désormais d'un leader qui semble avoir fait de l'instinct son principal moteur. Alors faut-il s'en inquiéter? De quoi Trump est-il capable? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Annick Cizel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis, tout comme notre deuxième invité, Célia Belin, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, chercheuse associée au Centre Thucydide de l'Université Panthéon Assas. Vous avez co-dirigé aux éditions du CNRS en octobre dernier les États-Unis dans le monde. Et puis, vous venez de publier un article dans le dernier numéro de la revue Esprit, comment anticiper la politique étrangère de Donald Trump. Vous élaborez trois scénarios, on va avoir l'occasion d'y revenir. Notre troisième invité se trouve au téléphone, elle est à Washington, c'est Laure Mandeville, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Figaro, vous avez été pendant 8 ans la correspondante du journal aux États-Unis. Vous avez publié en octobre dernier aux éditions des Équateurs. Qui est vraiment Donald Trump? Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, justement, ce soir. Vous donniez déjà beaucoup d'indications, d'ailleurs, je dois dire, dans votre livre « Laure Mandeville » en octobre dernier. Mais depuis, il s'est passé énormément de choses, à commencer, bien sûr, par son élection. Est-ce que vous diriez, Annick Cizel, que cette période post-électorale a permis de lever des incertitudes autour de ce que sera la politique de Donald Trump en matière de politique étrangère, hein, puisque c'est vraiment notre sujet ce soir, ou bien est-ce qu'on est toujours dans le même flou qui était celui du moment de l'élection?
Ben c'est vrai qu'on a beaucoup épilogué sur le fait que les propos de campagne ne seraient pas suivis des faits. Et à la surprise générale, pendant toute cette période de transition, non seulement le président élu est intervenu sur tous les sujets, s'est énormément prononcé sur un certain nombre de dossiers, ce qui n'est pas forcément courant, tant que le président en place n'est pas parti. Mais deuxièmement, il a réitéré un certain nombre de ses propos de campagne, y compris ceux qui avaient levé beaucoup, non pas de points d'exclamation, mais de points d'interrogation à travers le monde. Donc la surprise continue, ceci étant, il revendique, et non seulement lui, mais Stephen Bannon, son conseiller principal à la Maison-Blanche, son éminence grise, comme je dis, a revendiqué l'imprévisibilité, non seulement comme art de la guerre, ça c'est connu, mais comme la politique étant également l'art de la guerre, l'imprévisibilité est devenue la marque de fabrique de la politique de Trump en politique étrangère et revendiquée, inscrite dans le marbre, comme telle, à la veille de son investiture.
Célia Belin, il s'est beaucoup exprimé, Donald Trump, depuis qu'il a été élu, notamment sur Twitter, mais il y a eu aussi une conférence de presse. Il y a eu aussi cet entretien qui a beaucoup fait parler ces derniers jours qu'il a accordé au Times et à Bild. Est-ce que cette imprévisibilité, elle continue justement à s'exercer dans ses prises de parole, ou bien est-ce qu'il y a quand même une forme de clarification qui existe aujourd'hui sur certains thèmes de politique étrangère?
Alors au début de la période de transition, Donald Trump en fait s'est montré un peu timide, pas à son habitude, et donc il a réfréné ses volées de tweets dont on avait l'habitude, et il a semblé écouter la parole de Barack Obama, qu'il a consulté, évidemment, qu'il a rencontré au lendemain de son élection. Et puis dans les semaines suivantes, il semblait modérer son discours, ou en tout cas exercer une certaine retenue. Et puis ça s'est vraiment accéléré depuis la fin de l'année. Il a eu une série de tweets sur des sujets lourds, comme par exemple la maîtrise des armements le 22 décembre, armement nucléaire le 22 décembre, ce qui était assez improbable. probable, et puis ensuite revenant sur des sujets difficiles comme les interférences russes pendant l'élection et récemment, bien sûr, la relation aux alliés. Donc, en fait, Donald Trump commence à développer sa politique et, en effet, lève certaines incertitudes dans le sens où il y a certains points sur lesquels on n'était pas sûr qu'il revienne ou, comme l'a dit Yannick Cizel, qui étaient des positions de campagne. Et en fait, il les confirme à travers les dernières positions qu'il a prises, notamment le scepticisme à l'égard de l'OTAN, par exemple.
Est-ce que vous avez la même perception depuis les États-Unis, vous, Laure Mandeville, à propos de, justement, de ces nombreuses incertitudes autour du programme diplomatique de Donald Trump ?
Oui, en fait, je pense qu'on est toujours face au même personnage. Hein. Je suis pas très surprise par la manière dont il se comporte. Je pense que depuis toute la campagne, il a parlé d'abord de cette idée d'utiliser l'effet de surprise. Il a beaucoup critiqué le président Obama pour justement avoir passé son temps à dire tout haut aux journalistes en long et en large ce qu'il ferait ou ne ferait pas. Et donc je crois qu'on est face à un personnage beaucoup plus roué qui est en train d'établir le cadre d'un grand marchandage international, comme il le fait d'ailleurs aussi en politique intérieure, où il lance à coups de tweet ou de déclarations dans ses interviews aux médias un certain nombre d'éléments pour créer une sorte de tableau pour précédant son entrée dans le jeu diplomatique et notamment déstabilisant ici son futur interlocuteur chinois en remettant Taïwan dans le jeu, parlant à ses alliés de l'OTAN, à nouveau insistant en fait sur ce qu'il appelle le côté finalement un peu désuet de l'OTAN et la manière dont lui voit un éventuel changement sur ce front-là. Il y a la question du nucléaire où il a, tout en continuant ses ouvertures vers Poutine, malgré le gros scandale qu'on a vu quand même mentionner l'idée qu'il pourrait y avoir une nouvelle course aux armements nucléaires, qui est une manière quand même de mettre les Russes aussi un petit peu en haleine. Donc je pense qu'on est face à ce personnage qui va jouer de l'imprévisibilité et de sa manière en fait de faire de la politique autrement. Ça va être à mon avis un élément récurrent pendant tout le temps qui va, enfin maintenant, avec l'entrée dans la présidence. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a malgré tout une forme de clarification, en tout cas partielle, par les gens qu'il a choisis, on va, j'imagine, en parler, pour occuper les postes clés dans son gouvernement sur les questions de sécurité nationale et de diplomatie.
Alors j'allais justement y venir, Laure Mandeville. Est-ce que, à travers la composition de son administration et des hommes, puisque ce sont essentiellement des hommes qui vont entourer Donald Trump, on a peut-être des indications, des indices de l'orientation peut-être un peu plus précise qui pourrait être celle de sa politique étrangère, Célia Belin?
On n'a pas vraiment d'indications précises dans le sens où il a volontairement choisi une équipe éclectique. Une équipe où il va y avoir des avis contraires, en particulier sur les grands dossiers, comme par exemple la relation à la Russie, où on retrouve des républicains très sceptiques du rôle de la Russie dans les relations internationales et très favorables à l'OTAN, comme le général James Mattis, qui va prendre la tête du Pentagone, vraisemblablement. Et puis d'autres grands amis de la Russie, comme le secrétaire d'État. Et donc Rex Tillerson, le PDG de ExxonMobil, qui donc connaît très bien la Russie pour y avoir fait beaucoup de business. Et d'une certaine manière, il va opposer ces grandes personnalités autour de sujets absolument cruciaux des prochaines années. Et on dit beaucoup de Donald Trump qu'il a fait ça volontairement, que c'est une technique managériale, puisqu'il permet comme ça d'exprimer des opinions contraires. Il pense que ça développe le meilleur de chacun d'entre eux, puisqu'ils sont obligés d'aller au bout de leurs arguments. Et ensuite, lui tranche. Et la question qui se pose, c'est de savoir avec qui, auprès de qui, est-ce qu'il prend les ultimes décisions. Donc, certains parlent du cercle familial vraiment restreint, de Ivanka, sa fille, et son mari, Jared Kushner. Est-ce que, à ce moment-là, son chief strategist, Steve Bannon, va avoir de l'importance, ou son chief of staff, son directeur de cabinet, Reince Priebus? C'est là où on ne sait pas, ce n'est pas encore clarifié.
C'est peut-être plutôt rassurant, ça, Annick Cizel, c'est-à-dire de se dire finalement qu'il laisse toutes les options idéologiques ouvertes au sein de son administration. Ça peut éviter de grosses erreurs comme celles qui furent commises du temps de George W. Bush, où là, en matière de politique étrangère, c'était les néoconservateurs qui dominaient, qui trustaient même cette administration.
C'est-à-dire qu'il y a deux lectures possibles. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal de savoir laquelle des deux va l'emporter. Il y en a une qui est la professionnalisation. Qu'il a voulu, pas simplement, il a nommé des techniciens, pardon, des généraux, beaucoup. Il a nommé beaucoup d'anciens militaires. On oublie que Stephen Bannon aussi est un ancien Marine. Il y a donc énormément de professionnels autour de lui, dont on sait qu'ils auront un avis, je veux dire, avisé. C'est simple, et ça, c'est rassurant. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est que l'origine politique, ou en tout cas si on essaye de replacer ces personnages qui ne sont pas des hommes politiques au départ, dans des cases politiques, on voit cohabiter des néoconservateurs, des membres du Tea Party, Mike Pompeo à la tête de la CIA, des isolationnistes même dans d'autres endroits du gouvernement. On apprend aujourd'hui que dans le cadre de la transition, parce qu'il a beaucoup de postes à pourvoir et que les relations internationales étant ce qu'elles sont aujourd'hui, imprévisibles comme elles le sont aujourd'hui, il vient de décider de garder dans des postes, dans tous les départements d'État, défense, etc., les postes des adjoints, de garder une bonne cinquantaine de hauts fonctionnaires démocrates pour une période indéterminée pour l'instant. C'est-à-dire que, quelque part, j'ai envie de dire, il joue aux quatre coins. Effectivement, il va donc avoir une large palette d'opinions, mais dans quelle mesure est-ce que ces personnes vont réussir à travailler ensemble ? Et les premiers points de tension se sont faits entendre entre l'ex-général Flynn, à la tête son futur conseiller donc pour la sécurité nationale, qui va se retrouver à chapeauter l'ex-général Mattis, alors que Mattis, sauf erreur, avait une étoile de plus en tant que général, et l'ancien supérieur hiérarchique de Flynn. Et Flynn et Mattis ne s'entendent déjà pas. Donc l'autre lecture, c'est est-ce que James Mattis va démissionner encore plus vite que Colin Powell de la première administration Bush ? Et ça, c'est beaucoup moins rassurant.
Voilà, et donc forcément énormément de questions également par rapport à la pérennité, on va dire, de cette équipe. Célia Belin, vous évoquiez les pratiques venues du monde du management pour peut-être aussi expliquer la composition de cette administration Trump. Dans votre livre L'Or Mandeville, vous référez assez régulièrement à un ouvrage qu'a signé Donald Trump il y a quelques années de cela, The Art of the Deal, l'art de négocier. Et j'ai relevé notamment cette citation. Donc c'est du Donald Trump dans le texte. « La plupart des gens sont surpris par la manière dont je travaille. Je reste très flexible. Vous ne pouvez pas faire preuve d'imagination si vous avez une structure trop rigide. » Est-ce que ça, en tout cas, c'est un élément de lecture essentiel pour comprendre comment Donald Trump aborde justement la politique et notamment la politique étrangère, ne pas se laisser enfermer finalement dans une doctrine?
Oui, absolument. Je pense que c'est absolument fondamental pour comprendre le logiciel de cet homme qui est avant tout un pragmatique, un homme qui n'est pas du tout contraint par les règles du jeu qui ont prévalu jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui décontenance aujourd'hui l'essentiel de la planète washingtonienne et notamment tous ces fameux think tanks où il aurait dû en principe puiser beaucoup de membres de son équipe pour les échelons intermédiaires qui étaient évoqués par Annick précédemment. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de ces gens-là ont complètement sous-estimé Donald Trump, sont rentrés en guerre contre lui, toutes ces équipes, notamment de néoconservateurs, et qui maintenant se retrouvent sur le carreau, dont certains essaient de se rattacher au train de Trump. Mais Trump a montré finalement qu'il n'avait pas vraiment besoin d'eux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas attaché en fait aux règles du jeu conventionnel. Ça, c'est très important. Ce qui est intéressant aussi dans l'art du deal, c'est que c'est quelqu'un qui est prêt, dans sa fameuse technique de négociation, à mettre en avant des propositions qui peuvent paraître excessives, voire même rhétoriquement scandaleuses ou hors du mainstream, en fait, à l'extrême, mais qui sont pour lui des techniques de négociation qui lui permettent après de revenir à quelque chose d'intermédiaire, mais lui permettent de bouger les règles. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi ce qu'il a dit quand il a nommé les grands noms, en fait, de sa politique étrangère, donc notamment Matisse, Tillerson, etc. Tout le monde a noté que dans les hearings du Congrès, ces personnalités ont fait entendre des points de vue qui étaient parfois en gros décalage avec ce qu'avait annoncé Trump pendant sa campagne, notamment sur la question russe, où Tillerson comme Matisse ont exprimé une volonté de fermeté, de méfiance, une compréhension en fait de ce qu'est la menace russe et de quel animal politique va être la Russie comme interlocuteur. Et donc ça, c'est assez intéressant, parce que sur la question de la Crimée, par exemple, même Tillerson, que tout le monde accuse d'être un grand ami de la Russie, ce dont je ne suis absolument pas persuadée, il a exprimé une position très ferme en critiquant en fait la faiblesse de la réponse d'Obama à ce moment-là, et en disant que chaque fois que les Russes prenaient une position de force, il faudrait avoir une position de force équivalente. Donc ça, c'est assez intéressant. Et après ça, tout le monde a dit, mais alors, Monsieur le Président, vous n'êtes pas en accord avec les ministres que vous avez nommés. Et il a dit, oh, mais au contraire, je suis très très content que mes ministres aient un point de vue différent et qu'ils l'expriment. Au fond, ce qui m'importe, c'est qu'ils soient efficaces. Et s'ils ne sont pas efficaces,
On les verra peut-être. Il y a une autre hypothèse, moi, que j'aimerais aussi vous soumettre, puisqu'on en est forcément réduit un petit peu à ce jeu des hypothèses et des scénarios. C'est ce à quoi, d'ailleurs, vous exercez dans le dernier numéro d'Esprit, Célia Belin, qui pourrait être, au contraire, non pas celui d'une stratégie absolument délibérée de laisser toutes les portes ouvertes pour pouvoir choisir la meilleure option, mais on pourrait aussi voir le signe d'une profonde méconnaissance de ce que sont aujourd'hui les relations internationales, de ce qu'est le monde en dehors des États-Unis, et que cette façon de bâtir son administration et de dire des choses qui peuvent paraître contradictoires, c'est d'abord le fait d'un président qui n'y connaît pas grand-chose et qui ne s'y intéresse peut-être pas énormément non plus, Célia Belin.
Il y a chez Donald Trump une certaine illusion de la flexibilité, je pense, en politique étrangère, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est en effet une grande force puisqu'il déroute un peu ses adversaires, il déroute aussi ses partenaires. Au lendemain de son élection, d'un seul coup, le Mexique, le Canada se sentaient obligés de rediscuter de l'ALENA. Les Européens ne savent plus à qui se fier. Tout le monde y va de ses suppositions. Il a démontré qu'il était capable de taper là où ça fait vraiment mal. Donc, par exemple, il y a eu le cas taïwanais. En prenant le coup de fil de la présidente taïwanaise, il a démontré à la Chine qu'il pouvait aller frapper dans le cœur des relations historiques sino-américaines, en disant, mais moi, je remets tout à plat. Et puis voilà. Et puis maintenant, on peut discuter. Donc, en effet, il y a une sorte d'éclair de génie quand on veut le
éclair
voir comme ça.
Éclair de génie, voilà.
Mais
ou incompétence aussi.
Ou alors, voilà. Donc, il y a eu deux versions. Et je pense que ça n'est pas nécessairement tranché. Et les deux ne sont pas totalement incompatibles, dans le sens où il y a une tentative de flexibilité, une tentative de fluidité des relations internationales, mais que quelque part, cette équipe arrive avec aussi beaucoup d'illusions, parce qu'il y a quand même des lourdeurs administratives, bureaucratiques, il y a quand même des structures rigides qui font et qui créent la politique étrangère. Ce n'est pas seulement le Congrès qui va être potentiellement un organe d'opposition quand il va s'agir de certains sujets sur lesquels ils tiennent énormément, donc que ce soit par exemple les libertés civiles pour le front libertarien des Républicains, ou le front anti-russe du côté de John McCain, par exemple, le sénateur qui, lui, a un mandat de 6 ans, c'est-à-dire 2 ans de plus que Donald Trump. Donc, lui, il ne risque pas de ne pas être réélu. Il peut très bien aller à la confrontation avec le président. Et donc, il y a évidemment l'histoire diplomatique dont il se moque éperdument, ou dont il semble se moquer, et qui va forcément venir contredire ses premiers instincts.
Donc les scénarios d'ailleurs que vous élaborez, Célia Belin, enfin il y en a 3, et il y en a un qui serait celui, alors en matière de politique étrangère, d'un Donald Trump qui finalement serait assez passif dans ce domaine et qui laisserait la gestion des affaires internationales au parti républicain. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette hypothèse-là est une hypothèse qui mérite toute notre attention.
C'est un peu l'hypothèse de la digestion de Donald Trump par le Parti républicain. Cela dit, c'est une hypothèse qui a perdu beaucoup de sa valeur, je l'admets tout à fait, depuis cette élection. C'est un peu le sentiment qu'on a eu au lendemain de l'élection de Donald Trump. On a eu l'impression que, eh ben, il allait s'en remettre sur certains sujets très sérieux, aux gens compétents. Il a eu une certaine déférence à l'égard, encore une fois, de Barack Obama, mais aussi de beaucoup d'experts qu'il a consultés, etc. Et puis, assez rapidement, il a repris ses habitudes et il a démontré, en fait, début janvier, plutôt qu'il serait un président actif. Donc, l'idée qu'il se mette un petit peu en retrait, pour le moment, ça n'est pas l'hypothèse la plus probable.
Annick Cézel.
Et c'est ce que prouve, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est vraiment ce que prouve sa diplomatie Twitter, qui est incessante, qui est spontanée, qui est rapide, certes qui est très 21e siècle, mais qui affole pas simplement les pays étrangers. Je suis en train de repenser à une interview que Farid Zakaria pour CNN a fait d'Henry Kissinger. Henry Kissinger, le père de la politique étrangère, de la diplomatie façon républicaine, et où Kissinger rappelait à Trump qu'une diplomatie, ça se construit sur le long terme, que les relations diplomatiques, ça ne se hache pas à coup de 140 ou 280 mots, caractères, sur Twitter, et que cette construction sur le long terme, qui semble tellement antithétique du personnage Trump, qui est quelqu'un qui tranche, qui est quelqu'un qui marchande, qui fait des trocs, qui échange, mais qui ne construit pas à long terme. C'est le plus fort gagne à l'instant T. Et ça, c'est exactement l'inverse de d'une diplomatie internationale dans un monde global aujourd'hui. Et la mise en garde de Henry Kissinger montre à quel point, même au niveau du Congrès, ils vont avoir du mal, dans le temps long du Congrès, ce temps démocratique qui est nécessairement long des commissions et des allers-retours au Sénat notamment, comment Trump va s'adapter à cette réalité du terrain de la diplomatie. Eh ben, on va le voir dans les mois qui viennent.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
De quoi Trump est-il capable? C'est la question que nous posons ce soir au grain à moudre en compagnie de Célia Belin, d'Annick Cézel et de Laure Mandeville. Alors, dans ce paysage qui reste encore extrêmement, on va dire, nuageux, par rapport à ce que sera la politique étrangère de Donald Trump, vous relevez quand même dans votre livre, Laure Mandeville, au moins une ligne directrice qui paraît en tout cas extrêmement forte, affirmée et qui tient, on va dire, depuis que Donald Trump est entré en campagne, c'est la question de la lutte contre le terrorisme. Vous évoquez notamment un discours de politique étrangère en août dernier dans l'Ohio, à Youngstown, dans lequel il promet un combat sans répit contre ce nouveau mal qui est le terrorisme islamiste. Il dit « Nous allons défaire cet ennemi comme nous l'avons toujours fait dans le passé avec les autres ». Est-ce que sur ce terrain-là, en tout cas, on peut dire que les partenaires des États-Unis peuvent avoir la garantie que c'est vraiment un objectif que Donald Trump veut atteindre?
Oui, enfin, en tout cas, c'est un objectif affiché. La question, toute la question, ça va être qu'est-ce que ça veut dire exactement dans les faits au Moyen-Orient, dans les choix qui sont décidés, parce que c'est vrai que ce choix implique finalement des orientations potentiellement contradictoires. Ce qui est certain, c'est que Donald Trump a identifié la menace de l'islam radical comme une menace majeure et un défi majeur pour l'Occident, et que les personnalités qui l'entourent, et notamment son conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, qui a écrit un livre sur le sujet, mais aussi Matisse Bannon, évidemment, et également, je pense que Tillerson n'est pas en désaccord non plus sur cette question-là. Donc, ça va être une priorité. La question, c'est
cette priorité, Laure Mandeville, d'ailleurs, cette priorité, Laure Mandeville, elle est destinée à quoi? C'est-à-dire à établir, à répandre les valeurs américaines dans le monde en luttant contre le terrorisme, ou bien c'est avant tout une posture de protection, c'est-à-dire tout ce qui menace finalement les intérêts, les valeurs, éventuellement la sécurité des citoyens américains, ça mérite d'intervenir.
Oui, effectivement, je pense qu'il y a la question de la protection est majeure. C'est-à-dire que Trump veut avant tout être un protecteur des intérêts américains, de son pays, d'où le lien d'ailleurs qui est fait entre la question du terrorisme et la protection des frontières, et le filtrage dont il estime qu'il va être extrêmement serré des conditions d'immigration et d'entrée aux États-Unis. Mais il y a aussi la protection du camp des alliés de l'Amérique. Et de ce point de vue-là, il estime que l'Occident est dans une situation catastrophique. Il l'a expliqué, comme vous l'avez vu dans l'interview qu'il a donnée récemment à Bild et au Times, que certains dirigeants comme Merkel avaient été extrêmement imprudents dans la manière dont ils avaient géré la question de la migration, qui voulait une catastrophe pour l'Europe. Des réfugiés, et donc son idée c'est d'essayer d'attaquer les problèmes, les conflits là où ils sont, par exemple sur la question syrienne, trouver un moyen de régler cette question en s'entendant avec les Russes notamment, et pour circonscrire et abattre l'État islamique.
Donc, ouais, donc cette approche pragmatique, hein. Annick Cizel.
J'aimerais ajouter sur ce que Laure vous êtes en train de dire, je partage pleinement votre avis, et ajouter que la nomination de James Mattis, pour moi, a deux symboles. Elle est symbolique de deux choses. Un pivot vers le Moyen-Orient. C'est-à-dire que véritablement, Barack Obama s'est finalement retiré beaucoup des questions proches et moyen-orientales. De la Syrie, c'est évident. La nomination à la tête de la défense américaine de l'ancien commandant en chef, donc du CENTCOM, du commandement central pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie centrale, et a une valeur symbolique claire. Le général Mattis a servi en Irak et en Afghanistan. Il a les compétences à la fois de terrain et théorique d'aller éradiquer Daesh, puisque c'est le vœu de Donald Trump.
Donc là, on serait vraiment dans une forme de rupture avec l'administration Obama et pas du tout dans la continuité.
Complètement, et dans une continuité, somme toute, avec les néoconservateurs sous George Bush. Dans le même temps, deuxième symbolique dans la nomination de James Mattis, pour revenir juste faire une toute petite inflexion vers l'OTAN, James Mattis a été, avant le général Abrial, avant la nomination d'un général français, le dernier général américain à la tête de l'unité de transformation de l'OTAN à Norfolk, en Virginie. Et je pense que quand Donald Trump nous dit que l'OTAN est obsolète, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire de modernisation, non pas qu'il veut se défaire de l'OTAN, mais qu'il veut moderniser et à la fois l'arsenal nucléaire américain, il l'a dit, à la fois augmenter le budget de la défense, à la fois reconstruire une flotte maritime américaine, mais en aucun cas en dehors de l'OTAN. Dans le même temps, juste une petite chose sur les valeurs américaines, l'exportation des valeurs américaines au Proche et Moyen-Orient. À l'inverse, je pense que l'universalisme chez Donald Trump est quelque chose qui a disparu. La promotion de la démocratie, la promotion des valeurs, le nation building, il a pris fait et cause très très clairement pendant sa campagne contre toutes ces notions, cette croisade entre guillemets, George Bush avait utilisé le terme, il a pris véritablement une position très ferme contre l'exportation de ces valeurs. Donc on a un pragmatique, pas un idéaliste, à la tête, et d'où je suppose la nomination d'autant de militaires au sein de son gouvernement.
Donc on revient au Moyen-Orient, mais on ne le fait pas avec les mêmes intentions qui avaient été celles de l'administration de George W. Bush. Vous êtes d'accord avec ça, Célia Belin?
Alors autant je rejoins tout à fait Annick Cizel sur l'idée que la politique étrangère de Donald Trump, ce ne sera pas une politique étrangère des valeurs ou des principes, il n'y aura pas de promotion de la démocratie à l'échelle mondiale. Plus que ça, il n'y a même pas de défense de l'ordre international qui a été promu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale autour des grandes institutions multilatérales telles que l'ONU ou encore les institutions de Bretton Woods, mais au contraire un repli sur les intérêts nationaux directs et immédiats de l'Amérique. Et là où j'ai un petit désaccord, c'est peut-être sur la question du Moyen-Orient. Donc ça me semble intéressant, cette idée d'un pivot vers le Moyen-Orient. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un pivot sur la lutte antiterroriste, très clairement, dans le sens où c'est là où il y aura des priorités. Simplement, je pense qu'il y a une continuité entre Obama et Donald Trump sur les moyens et la manière dont ils vont conduire cette guerre. Obama a fait une bascule de la contre-insurrection vers le contre-terrorisme, c'est-à-dire de l'usage de troupes au sol de manière massive pour travailler avec les populations et stabiliser les États et faire du nation building, de la reconstruction d'États en Irak, etc., qui a été jugé comme un échec. Donc il y a eu un retrait des troupes américaines en Irak. En Afghanistan, ça a été plus difficile, mais le mouvement a été dans ce sens après un surge au début de l'administration Obama. Et Obama et le Pentagone ont travaillé pour finalement se focaliser sur le contre-terrorisme, c'est-à-dire la flexibilité des forces, l'empreinte légère maintenant avec des forces rotationnelles, avec l'usage accru des drones, avec des forces spéciales. Et ça, je pense que Donald Trump ne remettra pas en cause. D'abord parce que c'est moins visible pour le public américain, qui reste un public frileux, qui ne veut pas d'intervention, qui a été traumatisé par les guerres irakiennes et afghanes et qui ne voudra pas revoir des masses d'Américains sur le sol au Moyen-Orient. C'est d'ailleurs pour ça, en partie, que Barack Obama a refusé d'intervenir en Syrie. Et donc, il n'y aura pas de remise en question des moyens, sauf en cas, bien sûr, d'un événement extraordinaire, une catastrophe, une attaque absolument fulgurante. Mais sinon, il y aura une forme de continuité dans l'approche.
Dans mon pivot vers le Moyen-Orient, je plaçais Israël également au centre des préoccupations de Donald Trump, donc de manière assez évidente, c'est-à-dire qu'une forme d'axe Washington-Tel Aviv-Jérusalem, point d'interrogation,
Moscou. Oui, parce que voilà, il propose de faire de Jérusalem la capitale israélienne. Là aussi, c'est un tabou extrêmement important qui peut être levé. Vous disiez, Célia Belin, qu'il y avait les Américains ne voulaient pas revivre les interventions, notamment militaires, qui ont causé la mort de nombreux soldats américains. Laure Mandeville, on sait que Donald Trump, il a fait campagne en se disant, en gros, à l'écoute des sans-voix aux États-Unis, à l'écoute de son de l'opinion publique américaine, peut-être davantage que ne l'a fait Hillary Clinton. Est-ce que ça peut encore peser, justement, aujourd'hui, dans ce que sera sa politique étrangère? C'est-à-dire, voilà, écouter l'opinion publique, c'est aussi un élément important de ce qui va se passer dans les 4 années à venir aux États-Unis.
Oui, enfin, je ne suis pas certain que ça influe de manière directe sur ses choix. Je pense qu'il a cette idée que pour faire la paix, il faut être fort. C'est un peu la « peace through strength » de Reagan. Enfin, c'est la même approche, hein. Donc la reconstruction de la puissance militaire américaine pour qu'on soit un point dissuasif. Finalement, la théorie aussi de Teddy Roosevelt, agiter le big stick, parler avec à l'extérieur, mais agiter le gros bâton. Et je pense que aussi il y a un élément qui n'a pas été mentionné, c'est que chez lui, au lieu de cette espèce de recours au multilatéralisme auquel il ne croit pas du tout, il y aura une tentative en fait de créer une sorte de coalition avec les États sécularistes, sans se préoccuper trop de ce qui se passe en termes de droits de l'homme à l'intérieur de ces pays, comme par exemple l'Égypte. Donc de créer une sorte d'alliance avec les pays sécularistes qui sont prêts à lutter contre l'islam radical et aussi les États, disons, musulmans modérés où il y aurait une volonté aussi d'aller contre l'idéologie salafiste dont il a dit beaucoup, qui est un véritable poison exporté et qui vient menacer évidemment l'Occident dans ses chaumières. Donc il y a tous ces éléments, je pense, qui sont très importants. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Donald Trump ne croit pas à la reconstruction des nations à l'extérieur du pays et qu'il veut quand même consacrer des forces à reconstruire son propre pays. Ça, c'est très clair.
Et quelle va être la position, alors en tout cas le sort plutôt peut-être de la Chine, grande puissance évidemment, dans cette approche des relations internationales, Célia Belin? Alors là aussi, on est toujours obligé de faire un petit peu des hypothèses, mais est-ce que ça peut être un partenaire stratégique ou bien est-ce que c'est avant tout aujourd'hui un rival commercial? Quand on sait justement quel a été le parcours de Donald Trump, c'est-à-dire un businessman, c'est le commerce qui est peut-être avant tout, finalement, dans son approche du monde, sa première des préoccupations.
Alors avant de vous répondre, et justement parce que ça traite de la Chine, il y a un point intéressant sur l'opinion publique et la politique étrangère de Donald Trump, c'est que justement sur certains sujets, il répond très bien, à mon avis, au désir d'instinct de l'opinion publique, qui sont à la fois donc de plus vouloir intervenir militairement au Moyen-Orient, mais aussi très sceptique du Mexique et très méfiant de la Chine, et donc c'est là où on retrouve cette politique agressive vis-à-vis de ces deux pays, mais il est en décalage par rapport à l'opinion publique vis-à-vis de la Russie, par exemple. Son attitude pro-russe ne correspond pas du tout à une appétence du public américain. C'est vraiment quelque chose de très, très personnel chez Donald Trump, et d'ailleurs d'assez étonnant, puisque c'est quand même quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconstance, qui n'a pas peur de changer d'avis, qui n'a pas peur de critiquer, y compris ses amis. Et s'il y a un domaine sur lequel il a été assez constant, c'est bien la Russie. Mais pour revenir sur la Chine, il a été quand même tout au long de cette campagne, dès le départ, particulièrement agressif vis-à-vis de la Chine, en particulier sur les questions commerciales. Il juge en effet que la Chine bénéficie vraiment des garanties de sécurité collective que l'ordre américain a permis autour de la planète, c'est-à-dire une liberté de circulation, c'est-à-dire un Moyen-Orient où les hydrocarbures peuvent entrer et sortir tout de même librement, et de la sécurité maritime, etc. Et il considère que la Chine bénéficie de tout ça, s'enrichit sur le dos des Américains, leur prend leurs emplois manufacturiers, ce qui est d'ailleurs une réalité, puisqu'il y a eu vraiment une disparition de l'emploi manufacturier américain, et bien sûr au profit de la Chine également. Les Américains perdent des parts de marché très très rapidement, y compris en Amérique du Sud, par exemple, au profit de la Chine. Et donc que la Chine bénéficie de cet ordre américain sans y participer, sans dépenser un centime. Et donc c'est là où il veut rétablir d'une certaine manière une forme de parité, et qui n'a pas hésité à aller dans une forme d'agressivité avec la Chine.
Laure Mandeville et ensuite Annick Cizel. Laure Mandeville.
Oui, il me semble que tout ce qui a été dit est tout à fait juste, mais je pense qu'il y a certainement dans la position de Trump et de son administration qui va arriver, l'idée que la Chine, c'est le gros problème à moyen et long terme. Et que, au fond, il y a des problèmes plus immédiats, il y a la question russe, il y a la question syrienne, mais que le grand enjeu, le grand défi pour les États-Unis dans les années qui viennent, c'est la Chine. Et donc beaucoup des positions qui sont prises sont liées à cette question-là. Parce que il est probable que l'intérêt de Donald Trump pour la Russie est lié à l'idée, certes, peut-être illusoire, et moi j'aurais tendance à penser en partie illusoire, que les Russes vont pouvoir aider les Américains à régler d'autres problèmes ailleurs. La question syrienne, mais aussi, je pense que les Américains pensent qu'il est absolument vital d'empêcher une alliance russo-chinoise de se constituer, et qu'ils auraient potentiellement besoin des Russes pour justement contenir la Chine. Il y a évidemment, il n'a pas caché, hein, une grande préoccupation sur la question du rôle de la Chine en mer de Chine Sud, et il a montré la volonté, en fait, d'y établir une sorte de containment actif. Donc, sur cette question-là, je pense qu'il sera très ferme.
Annick Cizel.
L'endiguement de la Chine est non seulement une priorité, mais c'est une priorité brûlante aujourd'hui, parce que ce que la Chine est en train de faire, avec l'annonce d'un repli des États-Unis, protectionniste au niveau commercial, et d'un désengagement du nation building, etc., la Chine est en train de se propulser, Xi Jinping est en train de propulser son pays comme leader du multilatéralisme, qui se réapproprie la Pax Americana de 1945, il se réapproprie le multilatéralisme que Trump trouve trop contraignant de 1945, et on a entendu en l'espace de quelques semaines, Xi Jinping se proposait comme leader de la COP21, enfin de la suite de la mise en place de la COP21, qui avait été négociée lourdement par des groupes de travail conjoints américano-chinois à l'époque. Il vient de prêcher à l'ONU le désarmement nucléaire, la non-prolifération nucléaire, et il se propose comme leader du monde de la paix aujourd'hui contre les Russes, bien évidemment, qui ne goûtent pas forcément les propositions de Trump d'un nouveau traité New Start dans la suite d'Obama. Et également, le refus de Trump de donner suite au traité transpacifique de libre-échange a poussé Xi Jinping à se proposer à remettre la Chine au cœur d'un possible traité de libre-échange Asie-Pacifique, dont le Japon, par exemple, ennemi historique de la Chine, ne voulait pas, mais dont le Japon et l'Australie, donc deux alliés américains qu'on n'a pas, on n'a plus à prouver que ce sont des alliés piliers des États-Unis, sont en train de réfléchir, parce qu'après tout, si Trump mène sa politique commerciale de manière bilatérale en excluant la Chine, le meilleur moyen d'endiguer la Chine, c'est de faire effectivement un traité de libre-échange avec la Chine au centre et d'entourer la Chine, plutôt que de se retirer des relations.
C'est ça qui est assez passionnant finalement dans la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui, Célia Abelin, c'est qu'on voit bien à quel point, alors même pas encore tout à fait arrivé au pouvoir, il y a un bouleversement déjà, alors on ne sait pas si ce sera un bouleversement pérenne, mais en tout cas dans la hiérarchie, et que les pays prennent des places un peu différentes en fonction de la façon dont ils réagissent à ce début de mandature de Donald Trump.
Oui, l'élection même de Donald Trump en novembre a créé une réalité qui n'a pas attendu qu'il prenne effectivement le pouvoir. Puisqu'en fait, il y a eu immédiatement après son élection un réalignement des alliances et des conversations chez les rivaux, chez les partenaires des États-Unis, en préemptant en fait de cette politique étrangère de Donald Trump qu'on ne connaît pas très bien, mais que l'on imagine assez souvent défavorable en réalité pour ce qui est de ses alliés et en tout cas incertaine pour ce qui est de ses rivaux. Et donc, en effet, comme l'a dit Annick Cizel, la Chine a rapidement avancé ses pions et on peut dire, comme on le dit en anglais, careful what you wish for, parce qu'ils vont finir par obtenir ce qu'ils désirent, c'est-à-dire une prise de participation supérieure de la Chine dans les affaires internationales, mais ce qui veut dire aussi qu'elle va prendre de l'ampleur et finalement récupérer du terrain au détriment des États-Unis.
Voilà, bon, on aura évidemment l'occasion de revenir sur les conséquences de cette élection dans de prochaines émissions. En tout cas, merci beaucoup à toutes les trois d'y avoir participé. Annick Cizel, Laure Mandeville, qui est vraiment Donald Trump aux éditions des Équateurs. Célia Belin, comment anticiper la politique étrangère de Trump? C'est dans le dernier numéro d'Esprit. Et puis également les États-Unis dans le monde aux éditions du CNRS, ouvrage que vous avez co-dirigé. Je renvoie également vers le dernier numéro du 1, Donald à la Maison Blanche, numéro que vous pouvez trouver en kiosque, évidemment, comme chaque semaine. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. Demain, ce sera le Club des idées du vendredi dans le cadre d'une journée spéciale sur France Culture. Écrire le monde moderne, la longue marche des femmes. Nous poserons la question suivante au Grain. Les expertes sont-elles des experts comme les autres? Tout de suite. Non, pas tout de suite, dans un instant, ping-pong, Mathilde Serrel et Martin Kénéen, mais le sommaire, c'est tout de suite, avec vous deux.
Bonsoir Hervé. Bonsoir. Et avec une experte.
Bonsoir Hervé Gardette, bien sûr que les expertes sont des experts comme les autres. Qu'est-ce que c'est que cette question orientée?
Mais vous comprendrez tout demain soir,
ah,
en fait.
Ah, j'écouterai du grain à moudre. Il a travaillé avec Tati Buñuel et Peter Brook pendant 25 ans, Jean-Claude Carrière est notre invité.
Il travaille avec lui-même au scénario, à la musique et à la réalisation, c'est Bertrand Bonello qui est à ses côtés.
Et c'est donc d'ici, allez, environ deux minutes, juste après le rappel des titres.